Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, la grâce, la miséricorde et la paix vous sont données par Dieu notre Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère. Nous nous présentons ensemble devant Dieu avec le premier chant que vous trouverez dans le petit livret liturgique qui est au début du psautier français, « Ô Seigneur, ta fidélité ». Il est beau de te louer, ô notre Dieu, de tenir nos promesses envers toi qui écoutes la prière. Jusqu'à toi vient toute vie avec son poids de regrets et de peines, mais toi, tu pardonnes et tu encourages. Ta justice nous répond par des prodiges en notre faveur. Ô Dieu, notre Sauveur, tu es l'espoir des horizons de la terre et des rives lointaines. Les biens de ta maison nous rassasient, les dons de ta présence, ta force qui enracine les montagnes avec puissance, oui, tu apaises le vacarme des mers et la rumeur des peuples. Tu visites la terre, tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Tes ruisseaux, ô notre Dieu, débordent de vie et sous ta main, par tes bienfaits, tout exulte et chante. Alors c'est ce psaume 65 dont je viens de vous lire quelques extraits, que je vous propose maintenant de chanter, en fait, la version B, 65B, dans le psautier français. « Vers toi, Seigneur, vont nos louanges », les trois premières strophes de ce psaume. Vous pouvez prendre place. Et après avoir ainsi accueilli, si je puis dire, la présence de Dieu au milieu de nous et en nous, je voudrais vous souhaiter chaleureusement la bienvenue à vous tous, amis, frères et sœurs, passants, que vous soyez donc protestants de toujours ou découvrant la foi chrétienne, ou bien juifs venus par amitié, catholiques, ou bien simplement en recherche. Bienvenue. C'est une force de se retrouver ainsi, les uns avec les autres, pour s'ouvrir à cette source incroyable de vie qu'est notre Dieu. Alors bienvenue tout particulièrement à Jean Potier qui a demandé à être baptisé par nous ce matin, et c'est toujours pour nous une grande joie et un témoignage puissant pour nous aider à avancer que de recevoir ainsi une personne adulte qui désire devenir ainsi chercheur de Dieu, ou s'ouvert à cette bénédiction qui est donnée en Jésus-Christ. Voici ce que Jésus-Christ nous propose de vivre selon le témoignage de l'Évangile. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus ajoute, tu l'aimeras avec intelligence. C'est là le premier et le grand commandement, et voici le second qui lui est semblable, nous dit Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Après cet idéal infini de l'amour, nous ne pouvons nous tourner vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide. C'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur ce psaume. Éternel, donne-moi de m'accueillir comme tu m'accueilles, de m'aimer comme tu m'aimes. Délivre-moi de la perfection que je veux me donner, ouvre-moi à la sainteté que tu veux m'accorder. Épargne-moi les remords de Judas rentrant en lui-même pour ne plus sortir et épouvanté, désespéré devant son péché. Accorde-moi le repentir de Pierre rencontrant le silence du regard du Christ plein de tendresse et de pitié. Et si je dois moi-même pleurer, que ce soit pas sur moi-même, mais sur ton amour attristé. Oui, je voudrais tellement déverrouiller la porte de ma prison dont je serre moi-même précieusement la clé en fait. Alors donne-moi le courage de sortir de moi-même. Dis-moi que tout est possible à celui qui croit. Dis-moi que je peux encore guérir, être mis debout et avancer. Et avec ce psaume de la Bible, je vous propose de vous ouvrir au pardon de Dieu et de vivre de sa tendresse envers nous. J'aime l'Éternel. Il entend le cri de ma prière et il incline son oreille vers moi. Toute ma vie, je l'invoquerai. J'étais pris dans les liens de la mort, retenu par les filets de l'abîme. J'éprouvais tristesse et angoisse. Mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, je t'en prie, délivre-moi. L'Éternel est plein d'une juste compassion. Notre Dieu est plein de tendresse. L'Éternel défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Alors retrouve ton repos, ô mon âme, car l'Éternel te fait du bien. Désormais, je marche en présence de l'Éternel sur la terre des vivants. Nous chantons à Dieu notre reconnaissance. Vous pouvez prendre place et bienvenue donc très chaleureusement à Jean Potier qui a demandé le baptême parmi nous ce matin. Alors ce baptême, c'est le signe de l'amour que Dieu a pour vous en particulier, Jean. Avant que vous le cherchiez, Dieu était déjà près de vous, il vous accompagnait sur votre route dès votre plus tendre enfance. Donc avant même que vous le cherchiez, il était là. Près de vous par son amour, et rien ne vous privera de cet amour, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni celles à venir. Vous avez grandi dans la foi par le témoignage de personnes qui ont pu vous apporter un témoignage, votre mère, musulmane ouverte, et puis des chrétiens autour de vous. Et puis aussi, vous avez nourri cette foi par votre prière, par la lecture de la Bible. Vous avez aussi fait vivre cette foi en faisant comme vous pouviez, en aidant en particulier vos camarades dans votre métier difficile, en étant souvent, j'allais dire, bon samaritain pour d'autres. Et puis, vous avez aussi découvert peut-être un peu la foi chrétienne à travers le site internet, quelques prédications vidéo. Et puis, vous voici ce matin parmi nous, et c'est pour nous un honneur et une joie. Tout ce chemin parcouru jusqu'à maintenant nous porte à la joie et à la reconnaissance, mais ce chemin est ouvert devant vous, et jour après jour, semaine après semaine, année après année, au travers des rencontres, au travers ce que vous apporterez, votre foi pourra encore grandir, s'approfondir et rayonner sur des personnes qui ont la chance de vous rencontrer. Nous prions Dieu. Ô Seigneur, selon ta promesse, envoie ton esprit de lumière et de vie, qu'avec le Christ, Jean reçoive de vivre et d'être de plus en plus source de bien, source d'amour, source de paix. Amen. Désormais, ce baptême vous rappellera que vous n'êtes pas seul sur le chemin de votre vie, qu'il y a le Créateur qui vous accompagne et qui est là. Ce baptême vous rappellera l'importance toute particulière que vous avez au regard de Dieu et qu'il vous accompagne. Ce baptême vous appellera à demeurer en communion avec Jésus-Christ, en qui vous est offerte la joie d'une vie créatrice et d'un cheminement confiant grâce à la présence du Saint-Esprit qui vous est donné, qui fait de vous un prêtre, un prophète et un roi. C'est pourquoi, dans la joie et dans la reconnaissance, nous vous entourons, Jean, comme notre frère et comme notre ami. Jean, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jean, que Dieu vous bénisse et vous accompagne sur le chemin de votre vie, dans sa paix, sa force et sa joie. Amen. Alors, dans la liberté que Dieu vous donne de rentrer ou de ne pas rentrer dans son alliance, aujourd'hui, Jean, vous voulez répondre à cet amour de Dieu par votre foi en lui. À ce Dieu qui vous dit « Tu es mon enfant bien-aimé », vous lui demandez dans votre cœur et aujourd'hui au milieu de l'Église chrétienne, vous lui dites « Tu es mon Dieu, tu es mon Père que j'ai dans les cieux ». Alors, vous voulez confesser la foi chrétienne ? Alors, avec ces quelques mots, ces quelques déclarations de croyance, eh bien, c'est votre foi qui s'exprime et c'est par votre bouche que nous allons ensemble confesser notre foi. Donc, je vous propose de vous lever.
Je crois en toi. Je crois en un seul Dieu, notre Père. Il est pour chacun. Il y a pour chacun des projets de vie et de joie. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a pour vocation de nous apporter le salut. Je crois en l'Esprit Saint qui nous est offert. Il appelle à notre foi et fonde l'espérance de vérité. Je crois que par l'amour, la vie touche à la vie éternelle et qu'en Dieu, nous demeurons éternellement dans la liberté et dans la joie. Seigneur, augmente notre foi. Amen.
Merci beaucoup, Jean. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Vous pouvez prendre place, moi je vous garde ici. Alors Jean, vous avez reçu le baptême, signe de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ, en particulier pour vous. Vous avez confirmé cette grâce par votre foi, donc scellant ainsi une alliance entre Dieu et vous. Cette alliance de bénédiction mutuelle. Nous vous recevons avec grande joie comme membre de l'Église chrétienne. Alors l'Église chrétienne, c'est l'Église de l'oratoire, bien entendu, et c'est pour nous un privilège de vous accueillir, mais c'est la large famille de tous ceux qui cherchent Dieu en Jésus-Christ à travers toutes les églises particulières dans le monde entier, avec des sensibilités spirituelles, théologiques diverses. Et bien que le Saint-Esprit affermisse votre foi, vous accorde ses dons et vous les renouvelle jour après jour. Nous prions Dieu. Ô notre Dieu, merci pour tout ce que tu nous donnes jour après jour. Merci d'aimer, de garder et d'épanouir notre personnalité, d'y insuffler une paix, un bonheur, une passion, pour faire tout ce que nous pouvons pour rendre autour de nous la vie encore un peu plus belle. Merci pour la fraternité vivante qui existe entre les hommes dans les moments difficiles et puis aussi dans les moments de joie partagée. Notre Père, nous te prions en particulier pour Jean, que ton amour nous permet d'accueillir aujourd'hui. Fais que son témoignage, ses gestes, ses paroles rayonnent de la plus belle des façons. Oui, que ta joie, ô notre Père, soit notre force. Amen. Grand merci, Jean.
Frères et sœurs, c'est le moment de la lecture de la Bible. Je lirai un texte au chapitre 3 de l'Épître aux Éphésiens, un petit passage qui, à mes yeux, résume, présente toute la foi chrétienne. Et je me demande ce que vous en pensez vous-même. Éphésiens 3. Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations et au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à chanter dans le recueil bleu, Louange et prière, le cantique 75, les strophes 1, 4 et 5. Je vous invite à vous lever et à chanter. Viens, ô Dieu, inspire-nous, toi dont le feu embrasait les anciens prophètes, toi source de notre vie et de notre amour, couvre-nous de ta présence. Viens nous donner ton esprit. Apaise nos esprits enfiévrés ou fatigués. Si ton souffle pénètre notre âme, nous serons unis à toi et nous dirons avec les anges les merveilles de ton amour. J'ai eu une occasion de dire quelle image je me faisais de Dieu, comment je comprenais Dieu, et j'ai trouvé que c'était un sujet beaucoup trop impressionnant. Cela me paraissait même impossible de dire « je vais parler de Dieu ». Dès qu'une idée se présentait à moi, elle me paraissait insuffisante et prétentieuse, ridicule et fausse. Alors, je vais vous proposer un patchwork d'images, de pensées qui m'ont traversé l'esprit, des moments où j'ai eu comme une intuition, où j'ai senti comme un souffle qui montait en moi, un dynamisme créateur, et je vais vous en dire quelques-uns. Je vais vous en dire 12. S'il y en a un qui vous accroche, qui vous saisit, qui vous paraît correspondre à vos préoccupations, je vous le donne. Remodelez-le à votre manière, faites-le vôtre, car ce n'est pas mon Dieu qui peut vous éclairer, vous soutenir, vous réorienter. C'est le vôtre, le Dieu de votre vie. Alors voici le premier. Jésus a dit en Matthieu 10 qu'aucun oiseau ne tombait à terre sans notre Père. Et certains ont traduit « sans que votre Père le sache ». Un Dieu qui voit cette chute et qui laisse faire. D'autres traduisent même « Dieu l'a permis ». Moi, je n'aurais pas permis que l'oiseau tombe. Second traduit même « Dieu l'a voulu ». Moi, je n'aurais pas voulu que l'oiseau tombe. Mais justement, Jésus n'a pas dit tout cela, il a seulement dit « sans votre Père ». Dieu est là avec l'oiseau qui tombe. Les Juifs disent « Shekhina », la présence. Les musulmans disent « Dieu est plus proche de vous que votre veine jugulaire ». Si Dieu est là avec moi, quand je tombe, j'ai moins peur de tomber. Un professeur, voici le second. Un professeur de théologie américain demandait à ses étudiants d'imaginer en quoi leur foi serait modifiée si on leur prouvait, avec des preuves indiscutables, que Jésus n'avait jamais existé. Un grand silence lui avait répondu. Moi, j'aurais répondu, si vous me priviez de ce symbole central de ma vision du monde et de mon espérance, eh bien, j'en cueillerais 1000 autres dans les pages de la Bible. La sortie d'Égypte, du pays de l'esclavage, vers le pays où coule le lait et le miel, impossible. La victoire de David sur le terrible géant Goliath, impossible. L'espérance promise, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés, impossible. Vous avez raison, moins on a de religion, mieux on vit et plus on est sympathique. Je me suis surpris à lâcher cette phrase à un voisin musulman attablé devant une bière au café du coin. À ma remarque souriante au sujet de cette bière, il avait répliqué « Mais je n'ai pas de religion ». Mon apostasie mettait-elle en question mes décennies de ministère pastoral pourtant convaincu? Peut-être pas. Les salafistes qui tuent et fouettent pour plaire à Dieu, les évangéliques fondamentalistes et les catholiques intégristes qui enseignent que Dieu voue à l'enfer ceux qui sortent des rails officiels, ne seraient-ils pas plus humains et fraternels s'ils avaient moins de religion? L'athéisme souriant d'André Comte-Sponville, le dévouement des bénévoles du Secours populaire, de la CIMAD, d'Amnesty International, leur humanisme, leur accueil sans condition de ceux qui souffrent, ne participent-ils pas davantage que bien des croyants radicaux à l'incarnation du royaume de Dieu que Jésus nous a fait connaître? Quatre. On dit que Jésus est monté au ciel à la droite de Dieu. Mais cela vexerait grandement, s'il l'apprenait, les autres êtres pensants sur les planètes du cosmos qui demanderaient pourquoi un terrien aurait cette place dominante et non un ressortissant de leur planète. La question est la même lorsqu'on dit Marie est reine du ciel, reine des anges. Pourquoi serait-ce une terrienne et non une ressortissante d'Alpha du Centaure ou d'ailleurs? Devant l'immensité du cosmos, notre religion ne paraît-elle pas très petite, très provinciale? Nos religions prêchent un petit Dieu régional, aux préoccupations souvent bien mesquines et rétrogrades, et non pas un Dieu créateur, international et intergalactique. On se dit qu'au temps très ancien, où il n'y avait que les dinosaures et pas d'hommes, et que Dieu faisait pousser les plantes et les herbes dont ceux-ci se nourrissaient, il n'y avait donc pas de péché à compter, pas de salut du monde à mettre en œuvre, et Dieu se réjouissait tout simplement de regarder les dinosaures, que nous jugeons si laids, et qu'ils trouvaient probablement beaux, Cette idée de Dieu élargit énormément notre horizon et montre que nos cultes, comme d'ailleurs ceux des musulmans et des juifs, qui sont centrés sur le péché et les demandes de pardon, sont trop anthropocentriques, étroits d'esprit. Ne faudrait-il pas avoir des cultes où soit davantage manifestée la joie de Dieu qui regarde vivre les dinosaures, les humains et les habitants éventuels d'Alpha du Centaure? Des anarchistes ont écrit une fois sur la porte du temple de Montrouge, dont j'étais pasteur, leur slogan, qui me plaît plutôt, ni Dieu ni maître. J'ai rajouté sur la porte un X à Dieu et un S à maître, car je crois précisément que Dieu est celui qui nous libère de tous les dieux dominateur, écrasant, aliénant, et de tous les maîtres qui nous accablent d'un esprit de mort. Albert Schweitzer décrit ainsi sa compréhension du sens de la vie. Je le cite, « Nous naviguions lentement sur le fleuve, c'était sur l'Ogowé au Gabon, nous avancions dans la lumière du soleil couchant en dispersant au passage une bande d'hippopotames et soudain apparurent à mon esprit les mots « Je suis une vie ». Qui veut vivre parmi d'autres vies qui veulent vivre. Albert Schweitzer disait encore, lorsque par un sombre, là il était à Strasbourg au début du XXe siècle, lorsque par un sombre soir d'hiver, les chevaux ne parviennent pas en raison de la glace et de la neige à grimper la voûte d'un pont, et qu'apparu à côté de la voiture des passants, spontanément, dans un coup de main, en poussant, ne vous semble-t-il pas, à vous qui avez participé à la scène, que la ténébreuse nuit d'hiver se dissipe, que poursuivant votre chemin, vous marchez maintenant dans une autre nuit, plus claire, plus belle. Le pasteur Andrew Lindsay, professeur à la faculté de théologie d'Oxford, dit que la croix du Christ concerne aussi la souffrance des animaux. Je le cite. La croix du Christ est symbole de toutes les souffrances des hommes. Elle révèle que Dieu s'identifie aux créatures vulnérables, faibles, sans pouvoir, et particulièrement à tous les êtres innocents, sans protection et sans défense. Nous, qui avons compris notre solidarité avec tous les crucifiés et l'horreur de leur sort, nous comprenons aussi notre solidarité avec les animaux innocents et l'horreur de leur sort. La croix est symbole des souffrances des animaux comme des hommes. Et Jean, le visionnaire de l'Apocalypse, a dit « Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, je les entendis. Elle disait à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Jésus-Christ. Parmi tous les hommes qui savent me parler, qui me font prendre conscience du fondement dans lequel je puise, comme tout être, mon élan vital, qui répond à ce qui me préoccupe ultimement, Jésus-Christ, à mes yeux, est unique. J'aime lire ce que les évangiles disent de lui. À son contact, sous son influence, les aveugles voyaient, les lépreux étaient purifiés, les morts ressuscités. Je comprends que ces mots désignent un dynamisme créateur, un souffle d'apaisement, une fraternité renouvelée. Ce souffle de vie monte en nous, comme en lui, réoriente nos pensées, nous fait affronter le mal dans un esprit de victoire à travers nos défaites et la mort elle-même. C'est le souffle du Dieu qui nous rend humains avec nos compagnons, les autres hommes de bonne volonté. Alors, nota bene, je n'aime pas que l'on vitrifie Jésus-Christ dans des doctrines figées au vocabulaire tout fait, car il est toujours au-delà et ailleurs de ce que l'on peut dire de lui. Je ne lis pas dans les évangiles que sa mort de martyr soit un sacrifice expiant un quelconque péché originel. Jésus-Christ n'a jamais dit ni fait de mal à personne de la part de Dieu. La présence divine qu'il nous fait connaître n'est pas celle d'un juge menaçant, obsédé par les fautes et réclamant des expiations. Neuf. Imaginez que parce que nous sommes conscients de nos limites, de nos insuffisances, du mécontentement que nous avons parfois de nous-mêmes, nous nous laissions aller à chantonner « Seigneur aie pitié, Christ aie pitié, Seigneur aie pitié ». Unis au Christ dans cette atmosphère des évangiles, vous savez bien que Jésus nous répondrait « Arrête !» On va maintenant chez Zachée, le collecteur d'impôts haï de la foule de Jéricho, et on va lui dire que le salut est entré dans sa maison car il est aussi un fils d'Abraham et il n'en est pas conscient. Il nous recevra certainement avec joie et les choses iront mieux pour lui et aussi pour nous. Alors, laissons entrer en nous l'esprit de paix et de joie, de créativité divine. Levons-nous et marchons. Dix. L'intercession. Dans les prières d'intercession, à la fin des cultes, nous suggérons à Dieu qu'il ferait bien de s'occuper davantage de plusieurs points qui nous paraissent urgents et qu'il semble ignorer. On recommence fidèlement et patiemment dimanche après dimanche, car on n'a jamais l'impression que Dieu ait le moins du monde arrangé les choses, comme il pourrait si facilement le faire dans sa toute-puissance, manifestement demeurée encore inactive. Mais je crois que Dieu nous répond que ses tâches nous incombent, et d'ailleurs que son esprit nous en rend individuellement et collectivement capables. La prière renonce dès lors à ces cascades de demandes et se fait plutôt méditation, attitude de calme, suscitée peut-être par une lecture biblique, où l'on prend conscience de la force de vie cosmique qui nous anime, qui nous rend participants à toutes les autres vies du monde, proches et lointaines, et renouvelle en nos cœurs l'amour et la créativité dynamique que Jésus-Christ nous a fait connaître. Volonté de Dieu que chacun, comme dit le prophète, puisse demeurer sous sa vigne, sous son figuier, et boire l'eau de sa propre citerne. Et si vous ne croyez pas trop en Dieu, si vous ne pouvez pas trop croire en Dieu, cela n'a pas tellement d'importance. Dieu ne demande pas qu'on lui proclame des confessions de foi, qu'on le flatte en lui répétant qu'il est le plus grand, qu'on le supplie d'avoir pitié. Dieu n'est pas un Maharaja couvert de gloire et de puissance qui exige des génuflexions et des prières. Si c'était le cas, Jésus l'aurait dit. Dieu est la source de la vie dans laquelle nous puisons l'eau de notre existence. Il est le terreau vivifiant dans lequel nous sommes enracinés. Il est le médecin qui guérit nos âmes. Et nos médecins ne demandent pas avant tout nos remerciements et nos louanges, ils veulent surtout que nous bénéficions de leurs prescriptions et sont heureux de nous voir retrouver la santé. Si avec notre tête, nous ne pouvons pas expliquer Dieu, et si nous tournons en rond, en supputant la probabilité de son existence, ouvrons alors notre cœur et puisons au plus profond de nous-mêmes l'élan vital, la force, le courage de relever notre menton et de tenir le coup à travers les malheurs de l'existence que nous connaissons bien. Et voici le 12e et le dernier, c'est le poème d'Adhémar de Barros, le poète argentin, que beaucoup connaissent, mais qu'on a toujours, me semble-t-il, du plaisir à réécouter. J'ai fait un rêve la nuit de Noël, je cheminais sur la plage, côte à côte avec le Seigneur. Nos pas se dessinaient sur le sable, laissant une double empreinte, la mienne et celle du Seigneur. L'idée me vint, c'était un songe, que chacun de nos pas représentait un jour de ma vie. Je me suis arrêté pour regarder en arrière, J'ai vu toutes ces traces qui se perdaient au loin et j'ai remarqué qu'en certains endroits, au lieu de deux empreintes, il n'y en avait plus qu'une. J'ai revu le film de ma vie. Ô surprise, les lieux de l'empreinte unique correspondaient aux jours les plus sombres de mon existence. Jours d'angoisse ou de mauvais vouloir, jours d'égoïsme ou de mauvaise humeur, jours d'épreuves et de doutes, jours intenables, jours où moi aussi j'avais été intenable. Alors me tournant vers le Seigneur, j'osais lui faire des reproches. Tu nous as pourtant promis d'être avec nous tous les jours. Pourquoi n'as-tu pas tenu ta promesse? Pourquoi m'avoir laissé seul au pire moment de ma vie, au jour où j'avais le plus besoin de ta présence? Mais le Seigneur m'a répondu, mon ami, les jours où tu ne vois qu'une trace de pas sur les sables, ce sont les jours où je t'ai porté dans mes bras. Je vous invite à chanter le psaume 138. On chante dans le psautier français. Les strophes 1, 2 et 3.
Mon cœur soit dans mon chant. Sois brûlant de tes louanges.
C'est le moment des annonces. Tu veux que je fasse moi-même tes annonces? Obsèque d'un fidèle de l'oratoire, M. Yves Duvaux, mardi prochain à 14h, ici. Samedi prochain à 18h, prière silencieuse aux 4 rue de l'oratoire. Dimanche prochain, culte avec le pasteur James Woody, Sainte-Seine, et après-midi de l'oratoire à 12h. Venez avec votre pique-nique, nous partirons ensuite pour une activité partagée, décidée ensemble le jour même, et cela convient aux marcheurs. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? La quête! On fait la quête dans cette paroisse. Souvenez-vous que Dieu aime le don joyeux. Unissons-nous dans la prière. Ne le sentons-nous pas? Il y a un esprit dans l'air qui proclame sur toute la terre l'amour que Jésus-Christ a fait connaître par sa vie, par son œuvre en ce monde. Oublions notre réserve. Laissons l'amour de Dieu agir en nous. Et vivons donc ce que Jésus a fait à la suite des prophètes d'Israël. Dieu est venu pour rester. Sentons sa présence parmi nous. Quand le pain est partagé, quand l'enfant qui a faim est nourri, quand le SDF est logé et l'étranger est accueilli, sentons sa force parmi nous. En vérité, il y a un esprit dans l'air qui proclame par toute la terre l'amour que Jésus-Christ a fait connaître par sa vie, par son œuvre, en ce monde. Et nous disons le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et recevez l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Si vous ne réussissez pas dans toutes vos entreprises, recevez du moins dans vos cœurs la présence de Dieu qui donnera sa couleur à vos existences. Si vous subissez des échecs, puisez du moins en vous la force de Dieu qui vous permettra de tenir. Si vous traversez des jours troublés et si les autres vous déplaisent, sachez du moins comprendre leurs épreuves. Et si vous butez sur des conflits insolubles, conduisez-vous, si vous le pouvez, en artisan solidaire de partage et de paix. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen.